Parmi les 72 voix de la radio Ansar qui comptent dans ce parcours historique de la libération des ondes le 9 novembre 1981, par bien sûr François Mitterrand qui venait tout juste d'être élu président de la République, nous sommes le 10 mai 1981, Luc Perrault qui a été l'un des premiers permanents de Radio Alpa de 1985 à 1987. Bonjour Luc Perrault.
Bonjour.
Pour préciser un petit peu avec vous le contexte historique, Radio Alpa a d'abord été une association indépendante, une association qui avait à la fois le projet ambitieux de mettre en place une radio et un studio vidéo, d'où d'ailleurs le nom de Alpa, qui signifiait association locale pour l'audiovisuel. Radio Alpa, faut-il le rappeler, était accueillie par la MJC Jacques Prévert dans le Vieux-Mans, là nous sommes encore aujourd'hui, et à l'époque c'était en lieu et place de sa salle l'auditorium où les jeunes venaient écouter des vinyles sur le matériel hi-fi de l'époque mis à disposition par la MJC. Très rapidement, au terme d'un an, l'association a demandé que Radio Alpa intègre la MJC Prévert comme un secteur d'animation avant de procéder à sa dissolution. On parle bien sûr de la dissolution de l'association Radio Alpa. Luc Perrault, qu'a représenté pour vous ce mouvement de libération des ondes en 1980, cette libération de la parole sur ce qu'on appelait à l'époque les radios libres, puisque vous avez fait partie de cette histoire?
Je dirais que ça a d'abord représenté un formidable espoir, parce qu'on était toute cette génération de gens avaient l'habitude d'écouter la radio, des radios qui étaient assez formatées finalement, peu nombreuses.
C'est l'époque du monopole d'État.
À l'époque du monopole d'État, tout à fait. Et se dire que finalement chacun allait pouvoir s'exprimer, raconter un petit peu ses envies, ses goûts, ses rêves, ça c'était vraiment un véritable espoir.
Qu'est-ce qui vous a motivé justement à prendre part à cet événement et plus particulièrement à Radio Alpa ?
Alors, en fait, c'est un petit peu un concours de circonstances. Donc, j'étais plutôt mélomane et un auditeur des radios que nous pouvions écouter sur la bande FM. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais objecteur de conscience. À l'époque, il y avait cette possibilité, puisqu'on était encore dans le service national.
Voilà, c'est-à-dire que ça, c'était une option qui a été proposée aux gens qui ne voulaient pas faire leur un an de service militaire, mais ils devaient faire 2 ans de service civil, qu'on appelait l'objection de conscience.
Pour ma part, j'avais l'impression de pouvoir être beaucoup plus utile dans ce type de configuration-là. Et il s'est trouvé qu'il y avait une possibilité de... Enfin, Radio Alpa, le centre Prévert, exactement, cherchait un permanent pour sa radio. Donc ça a été une opportunité finalement, et puis j'y ai pris très vite goût. Je me suis lancé corps et âme dans cette aventure-là. J'ai pris à la fois beaucoup de plaisir, j'ai appris énormément de choses.
Radio Alpa a été déclaré officiellement journal officiel le 10 février 1981. Vous êtes donc dans cette partie de l'histoire de Radio Alpa. Comment ça fonctionnait à l'époque, Radio Alpa ?
Alors quand je suis arrivé, c'était paradoxal, c'est-à-dire qu'en même temps, il y avait un studio qui était très joli, je crois que ce sont toujours les locaux actuels d'ailleurs.
C'est vrai.
Voilà, avec une jolie charpente, de l'espace, une régie avec un petit peu de matériel. C'était relativement modeste, mais il y avait quand même de quoi faire de la radio correctement. En même temps, je trouvais qu'il y avait, comment dire, essoufflement.
Déjà dès le début, quand même.
Assez rapidement, oui. C'est-à-dire qu'il y avait des bénévoles qui venaient boire une petite bière et puis entre deux bières venaient faire une émission. Alors il y avait une demi-douzaine d'émissions qui étaient pour certaines d'entre elles de très grande qualité.
Oui, il y avait Radio Popote entre autres, avec Cécile Guilherme.
Par exemple, il y a eu... 24 secondes d'image, ouais. Par image, il y avait quelques émissions comme ça, il y avait une émission de bande dessinée aussi qui était assez bien faite, mais en fait il y avait une certaine souplesse peut-être excessive, un peu folklorique, où on pensait plus à la personne qui faisait l'émission qu'à la personne qui l'écoutait. Donc il a fallu que je modifie un petit peu le fonctionnement, d'abord en renouvelant un petit peu, en mettant en place une grille un peu plus resserrée, un peu plus...
Organisé,
voilà, on ne peut pas parler de rigidité, mais en tous les cas, plus organisé, avec quelques règles qui manquaient un petit peu au préalable.
Tiens, c'était quoi les règles de l'époque, Luc Perrault ?
Alors, quand je suis arrivé, les règles, c'était, quand vous voulez, vous venez... Alors, bon, on a mis en place, par exemple, un comité de programmation qui a permis de... Alors, chaque personne qui voulait proposer une émission devait quand même présenter un projet en bonne et due forme. Il y avait une commission qui se réunissait et on déterminait ce qui était adapté ou pas et quel était l'horaire le mieux adapté. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu cohérent, de manière à pouvoir avoir une grille qui soit à peu près écoutable. Alors, bon, tout ça a pris du temps. Ça s'est pas fait en un jour, mais les choses sont allées relativement vite. Il y a assez rapidement pas mal de bénévoles qui sont venus. On a formé aussi des gens à la technique, ce qui était quand même bien nécessaire. Et puis, on a embauché petit à petit un, puis deux, puis trois. Alors, à l'époque, on parlait de TUC et SIVP. C'était des contrats aidés, en quelque sorte.
Le travail d'utilité collective.
Voilà, très exactement. Ce qui permettait d'assurer une qualité minimum dans l'aspect technique des choses.
On allait déjà peut-être vers la professionnalisation, c'est-à-dire que le bénévolat, certes, mais effectivement, il y a d'abord l'auditeur et que l'auditeur a eu des oreilles de plus en plus exigeantes.
Oui, parce que les radios se sont toutes, les unes après les autres, plus ou moins professionnalisées. Mmh. Je dis plus ou moins parce qu'il y avait une certaine opposition entre, d'une part, les radios qui étaient restées complètement associatives et puis les radios qui tiraient vers un aspect plus commercial. Mmh. Et donc avec les obligations de qualité qui allaient avec. Donc il fallait effectivement proposer nous aussi des choses de qualité, ce qui petit à petit s'est fait. On a pu voir une évolution assez marquée. Et puis aussi dans un enrichissement de la grille, avec par exemple on a mis en place un journal d'information locale quotidien. C'était sur le coup de midi ou 13h, je ne sais plus très bien, mais tous les jours, en tous les cas, on parlait d'événements, alors avec nos moyens, avec nos connaissances, qui étaient évidemment un petit peu limitées, mais il y avait cette évolution-là. Et puis, on prenait l'antenne plus tôt aussi. On a commencé à prendre l'antenne à partir de 6h du matin.
Ah, quand même
période, on prenait, ah oui, à partir de 6h, entre 6 et 8, il y avait une...
matinale.
C'était une matinale, absolument. Mmh. Alors les bénévoles étaient plutôt le soir, après leur travail, en général.
Ce qui s'explique.
Et puis on avait des rediffusions, on enregistrait des concerts. Donc il y avait une émission dans laquelle nous diffusions des concerts qu'on allait enregistrer dans la Sarthe. Des concerts de musique classique ou de musique de rock ou de choses comme ça. Et puis on avait aussi toute une participation à la vie culturelle locale. Je pense notamment au cours des fêtes de la musique, créer de toutes pièces des émissions en public, dans la cour, notamment avec l'école de jazz.
De la MJC Prévert.
D'organiser de la MJC Prévert, on a organisé des concerts diffusés en direct depuis la cour en public, et ça c'était quand même quelque chose d'assez mémorable.
Ce qu'il faut préciser sur votre période de coordination du secteur Radio Alpa de la MJC Prévert, c'est peut-être préciser que c'est avec vous que se sont mis en place les premiers ateliers radio avec des jeunes, ce qu'on qualifie d'aujourd'hui d'éducation aux médias.
Oui. Oui, en effet, il y a même un reportage de FR3 à l'époque.
Oui, qu'on voit dans les films qui ont été produits par la Framaclina et Fréquencier, oui.
Absolument, c'était moi qui avais fait les petites mains, qui avait organisé un petit peu l'affaire. Alors, il y avait Marc Landry qui avait pris, je crois, ma succession, que nous avions embauché comme TUC à l'époque et qui s'était beaucoup donné aussi dans ses ateliers pour jeunes. Et je crois que c'est bien de faire de la radio, c'est bien aussi de transmettre ce goût-là, de permettre aux jeunes d'apprendre aussi à s'exprimer, à développer des idées devant un public. Quoi.
À ce propos, Luc Perrault, c'est justement la réflexion en cours dans le développement de la continuité de Radio Alpa, parce qu'il faut poursuivre cette histoire qui fête ses 40 ans en 2021. Est-ce que ces ateliers suscitaient justement des vocations à animer plus régulièrement une émission et pas simplement un atelier de découverte ?
Pour certains, pas pour tous les participants, mais pour quelques-uns d'entre eux, sont venus par la suite nous proposer des émissions. On les a aidés à les construire et à les réaliser. Mais effectivement, il y a eu des vocations. Mais au-delà de ça, je pense que ça a permis aussi à cette génération de découvrir comment une radio se faisait, une notion un peu d'éducation populaire derrière tout ça. C'est-à-dire comment on pouvait faire pour présenter un propos devant un micro de radio, quoi. Et je pense que ce côté éducation populaire, c'est un aspect auquel je tiens beaucoup. Parce que la lecture après des informations sur les médias audiovisuels n'est pas la même quand on sait un petit peu comment on doit faire.
Luc Perrault, depuis cet épisode de votre vie à Radio Alpa, vous êtes resté professionnellement dans l'audiovisuel.
Oui, alors j'ai eu un petit passage quand même par la presse écrite, c'est-à-dire que ayant arpenté, notamment parce que j'avais mis sur pied ce journal d'info local quotidien, j'avais croisé quelques personnes qui allaient devenir des confrères de la presse quotidienne régionale, d'Ouest-France, du Maine Libre, etc. Et puis ensuite, je suis revenu aussi à l'audiovisuel, une opportunité qui m'a permis d'apprendre à me servir d'une caméra et à devenir journaliste de télévision, puisque je travaille aujourd'hui à France 3.
Luc Perrault, pour parler du rapport de la voix à l'image, on va vers une évolution où l'image accompagne de plus en plus la radio, la voix de la radio, puisque les émissions, les chroniques peuvent être filmées. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance vers la radio filmée?
Alors là, je suis assez prudent, parce que je pense que il y a des points communs entre les médias audio et les médias visuels. Mais la radio filmée, c'est pas de la télévision, c'est autre chose. Et peut-être que lorsque j'écoute une émission de radio, je n'ai pas la même attente que lorsque je regarde un reportage ou un documentaire à la télévision. L'écriture n'est pas la même, le style n'est pas le même, évidemment. Le type de sujet traité n'est pas forcément le même.
Mais alors pourquoi les radios cherchent à être filmées aujourd'hui? C'est un bien ou c'est voilà, faut être prudent?
Alors, je dirais que c'est un état de fait. Un bien, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un effet de mode. C'est à mettre de pair avec l'évolution des réseaux sociaux, où l'image, sur lesquels l'image a pris une place considérable. Je dirais qu'on peut tout faire. On peut faire de la presse écrite quand on est journaliste télé. On peut faire de la télé quand on fait de la radio. Pourquoi pas? Tout s'apprend et tout peut se faire. C'est pas parce qu'on met une caméra devant une personne qui est en train de parler à la radio que ça fait pour autant une émission de télévision.
Oui, même si c'est peut-être pas l'effet recherché non plus. La radio en 2021, 40 ans après la libération des ondes, ça représente quoi pour vous, Luc Perrault?
Ça représente...
Vous qui faites de la télévision.
Je dirais que ça représente un sacré morceau de résistance. Je m'explique, la presse écrite depuis des années a bien des difficultés. Beaucoup de titres ont eu et ont à travers des crises assez importantes. La télévision, il en va de même. On peut pas dire que la télévision se porte bien aujourd'hui. Toutes les chaînes se cherchent de nouvelles manières de faire leur travail.
Peut-être le développement de la RNT ou de la TNT.
Je pense que c'est plus les habitudes, comment dire. Il y a une évolution de société extrêmement profonde, une évolution tant au regard de ce qu'est l'image aujourd'hui que du rapport du public à l'information. La radio reste encore aujourd'hui un média fort.
Le plus écouté, le plus crédible en tout cas en matière d'infos, c'est ce que dit chaque année l'enquête du journal La Croix.
Absolument, et puis d'autres enquêtes aussi qui vont dans le même sens. Alors c'est vrai qu'il y a un certain effritement de certaines tranches horaires, mais la radio est quand même, aujourd'hui, reste quand même, à la fois, vous le disiez, un support très crédible en termes d'information, mais aussi c'est quelque chose qu'on peut écouter facilement de n'importe où. L'autre élément aussi, c'est qu'on peut écouter une émission tout en faisant autre chose, manuellement. Ce qui n'est pas le cas des autres autres supports, que ce soit la télévision ou même la presse écrite. Et ça, c'est un petit avantage qui n'est pas rien, en fait. Donc je pense que la radio a encore de beaux jours devant elle, à condition de ne pas se prendre pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire pour un autre média, et à condition de veiller à une rigueur, notamment je parle en termes d'information, conserver cette rigueur qui a souvent été la sienne.
Merci Luc Perrault.
Je vous en prie, avec plaisir.
Merci pour votre témoignage parmi les 72 voix de la radio enregistrée donc à l'occasion des 72 heures de la radio en Sarthe. Une action soutenue par la région Pays de la Loire, le département de la Sarthe, la ville du Mans, la commune de Sillé, le Guillaume et la DRAC Pays de la Loire.